France Inter.
Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. L'amour ouf des Français pour leur cinéma. Les chiffres 2024 sont connus. Ils confirment que les films français se sont taillés la part du lion en salle cette année, comme jamais depuis 16 ans. Illustration dans un instant. Et nous nous demanderons si ce succès vaut aussi à l'étranger. À suivre encore, le combat de ce père en grève de la faim. Ses deux filles ont été enlevées par leur mère aux États-Unis. Le gaz russe va-t-il continuer à traverser l'Ukraine pour alimenter l'Europe, car nous en consommons toujours, et oui, et nous en parlerons avec notre invité. À suivre encore, ce choix de François Bayrou qui fait débat. Bonjour Victor Vasseur.
Bonjour.
Confier au satellite d'Elon Musk la reconnexion de Mayotte.
200 antennes Starlink permettront à l'île de retrouver du réseau haut débit et assurer les communications en urgence. Coup de gueule de l'opérateur Orange.
Et vos explications dans un instant. Et vous, comment allez-vous réveillonner ?
Soirée petit comité de prévu à Caen, mais ça n'empêche pas la qualité. On va faire jeu de société.
Vous n'allez pas danser un peu
Ah bah si, il va y avoir la musique quand même. Rock, peut-être reggae, peut-être un peu de disco. Ça va être plutôt cool.
Nous serons en Normandie, vous l'avez compris, dans les prochaines minutes. Nous rejoindrons également des fêtards devenus sobres. Zéro alcool pour eux ce soir. Et puis à partir de 13h30, nous parlons des réveillons solidaires. Ces initiatives partout en France pour éviter que des gens ne passent leur soirée seuls. Ce sont des voisins qui se regroupent, des associations, des communes, des restos qui organisent un repas. Si c'est votre cas, venez nous raconter. 01 45 24 7000. 13h50, c'est la France. Cyril Petit du journal Ouest France nous a déniché les histoires de l'année qui donnent le moral. C'est tout près de chez vous. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson spéciale années 80. Le danseur Carl Paquette, Michael Jackson et Frédéric Pommier. C'est le dernier 13-14 de l'année. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Vous vous souvenez du coup de gueule du patron du groupe Pathé sur France Inter il y a 2 ans ? Les spectateurs n'ont pas envie d'aller au cinéma pour se faire chier. Le cinéma était alors au creux de la vague, on sortait du Covid et on pariait sur le triomphe définitif des plateformes. Le scénario de 2024 est tout autre. Plus de 181 millions d'entrées en salle cette année, du jamais vu depuis 2011, selon les chiffres du Centre National du Cinéma dévoilé ce matin sur Inter, dont 44% d'entrées pour voir des films français. Là, c'est une première depuis 2008. Nos trois mousquetaires se nomment. Un petit truc en plus, Le Comte de Monte Cristo et L'Amour Ouf. 24 millions d'entrées à eux trois. Et ça continue en ce moment et donc jusqu'à la fin de cette année. Bonjour François Ventéjou.
Bonjour.
Vous êtes rendu au cinéma ce matin, Vénard, dans le 15e arrondissement de Paris. Vous avez constaté que les films français gardent la cote.
Oui, et sans surprise, dans ce cinéma, les deux premières places du podium sont occupées par Un Petit Truc en Plus et Le Comte de Monte Cristo. L'adaptation du roman d'Alexandre Dumas, c'est plus de 9 millions d'entrées en France. Et Le Coup de cœur de Béatrice et Christian.
Génial, j'adorais. Je m'attendais à un bon film, mais là, il a dépassé tous mes espoirs.
Monte Cristo aussi, un très bon film, un excellent film Monte Cristo, j'ai beaucoup apprécié, j'ai vu 2 fois.
À la sortie de la salle, Owen cite sans réfléchir Un Petit Truc en Plus pour le film de l'année, film réalisé par Artus avec des jeunes adultes en situation de handicap.
Film que j'ai beaucoup apprécié, ce côté humoristique, mais tout en sensibilisant un petit peu le grand public, c'était vraiment très sympa.
Porté par ces 2 gros succès français, Owen a davantage poussé les portes des cinémas en 2024.
D'habitude, j'y vais peut-être, on va dire, 1 fois dans l'année. Là, j'ai quand même été plusieurs fois. J'ai vu aussi d'autres films comme des Disney qui sont sortis. Les films étaient quand même plus intéressants cette année, je trouve, avec plus de diversité, donc c'était sympa.
Des spectateurs de retour en nombre, donc, notamment avec Enfant Phare en cette fin d'année. Mais certains sont toujours refroidis par les prix. Plus de 10, voire 15 euros la place, selon les cinémas. Pour Fabienne, c'est trop cher.
Bah, disons que si on y va en famille, enfin, ça revient super cher, quoi. Autant se faire un petit resto, quoi. Non, mais j'adore le Cinoche, mais bon, là, je trouve que c'est décuplé, quoi, les tarifs. C'est trop cher pour moi.
Fabienne, qui a tout de même vu Le Comte de Monte Cristo et Un Petit Truc en Plus, convaincue par ses copines.
Merci François Ventéjou. Alors, les films français prophètes chez eux, on l'a compris, sont-ils ou seront-ils aussi appréciés à l'étranger ? Bonjour Corinne Pellissier.
Bonjour.
L'une des spécialistes cinéma de la rédaction d'Inter. On a déjà des tendances,
ouais,
Corinne ?
Ouais. Et même 2 gagnants sur la première marche du podium.
podium parce qu'il y a le bilan de la fréquentation, le nombre d'entrées en salle et puis aussi la saison des prix aux États-Unis, très importante pour mesurer le succès d'un film. Emilia Pérez de Jacques Audiard et ses 10 nominations aux Golden Globes, sorties dans très peu de cinémas, mais disponibles dans le pays depuis un mois et demi sur Netflix, qui mène une campagne très agressive en vue des Oscars. Résultat difficile à quantifier, mais le buzz est énorme. Louis Allonet, le directeur du Fonds culturel franco-américain, s'en est bien aperçu lors du dernier festival du film français de Los Angeles.
C'est sa porte d'entrée d'une certaine manière aux États-Unis. Alors je suis pas surpris parce que la production et le cinéma français se portent très bien et on a une qualité et une exigence qui est très forte. Quand on va à des avant-premières et qu'on a l'occasion de rencontrer le réalisateur ou le casting, forcément ça a une attraction au niveau du public et des médias qui est encore plus forte.
Et puis il y a ce que nous disent les maths, les derniers chiffres publiés par Unifrance, l'organisme chargé de la promotion et de l'exportation du cinéma français dans le monde. Ils datent du mois d'octobre, mais c'est acquis le Comte de Monte Cristo, locomotive et leader incontesté de l'année 2024, avec déjà plus de 2,5 millions de spectateurs à l'étranger. Artus et son petit truc en plus devraient lui se rapprocher du million. Et puis une surprise, Justine Triet qui termine seulement aujourd'hui sa carrière internationale avec Anatomie d'une chute. 5 millions d'entrées à l'international, voilà qui reflète assez bien finalement la diversité du cinéma français.
Donc un film vit très longtemps après sa sortie en salle en France. Merci Corinne Pélissier pour cet éclairage. Venons-en maintenant à la soirée du réveillon. Sous l'angle sécurité, environ 90 000 policiers et gendarmes mobilisés partout en France, comme l'an dernier. 6 000 à Paris et 1200 à Strasbourg, où les feux de véhicules et de poubelles se multiplient ces derniers jours dans plusieurs quartiers du nord de la ville. Plus de 60 véhicules incendiés au total et une vingtaine d'arrestations. La CRS 8, c'est la compagnie spécialisée dans la lutte contre les violences urbaines. Cette compagnie va y être déployée. En Corse, à Ajaccio, là c'est la préparation du réveillon de Noël que beaucoup d'habitants gardent en mémoire avec ce meurtre. Lundi dernier, un pompier tué par balle, la veille du réveillon donc, dans un bar très fréquenté de la ville. Une centaine de personnes se trouvent alors sur place. Scène de chaos. Pour les accompagner depuis, deux cellules médico-psychologiques ont été mises en place. Julie, 21 ans, a consulté celle ouverte à l'hôpital.
Ça m'a énormément servi. Moi, je suis quelqu'un qui suis toujours joviale, je souris tout le temps. Je suis tout le temps contente vraiment d'être avec des personnes que j'aime, etc. Et là, en ce jour de Noël, j'ai pas décroché un seul mot, c'était compliqué. Et ces personnes-là, justement, étaient là pour me rappeler que c'était les légitime de ressentir ce que je ressentais. C'est quelque chose qui est bête, mais le matin dans ma voiture, j'ai pas mis de musique. Et quand je suis repartie, j'ai réussi à mettre de la musique. Même du coup, le réveillon de Noël, je l'ai passé un peu plus sereinement. J'ai réussi à discuter, à rigoler. Alors que je pense que si j'avais pas été consulter ces personnes, ça aurait été beaucoup plus compliqué de passer un réveillon comme je l'ai passé.
Témoignage recueilli par France Bleu Corse, Frequenza Mora, toujours en Corse hier soir. Un engin explosif a dégradé le bâtiment de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités. C'est à Borgo, dans le nord de l'île. Pas de blessés, des dégâts mineurs. Une enquête est ouverte. Le réveillon de ce soir qui sera forcément douloureux pour ce père de famille qui est assis depuis une dizaine de jours sur une chaise à Paris devant l'ambassade des États-Unis. Arnaud, c'est son prénom, observe une grève de la faim pour retrouver ses enfants. Il n'a pas vu ses jumelles âgées de 9 ans depuis le mois d'avril car leur mère, américaine, les a emmenés aux États-Unis. Pourtant, c'est lui qui en avait la garde. Alors depuis 9 mois, il se bat et Delphine est venue la rencontrer.
En bas des Champs-Élysées, posés sur les bancs du jardin en face de l'ambassade, une dizaine de larges panneaux réclament en français et en anglais le retour d'Eva et Juliette. Arnaud, leur père, est emmitouflé sur une chaise.
Cette grève de la faim, c'est pour obtenir rapidement une action forte à la fois du gouvernement français et des autorités américaines.
Car il n'a pas vu ses filles depuis le mois d'avril.
Pendant les vacances de Pâques, puisque leur mère avait un droit de visite, elle les a emmenées dans le sud et en plein milieu de sa semaine de vacances, elle a disparu avec les enfants. L'enquête a trouvé qu'elle était passée par l'Espagne, le Maroc, et du Maroc, elle a rejoint les États-Unis.
Elle serait aujourd'hui dans l'Oregon, d'où elle est originaire.
J'ai eu quelques emails qui me disaient très clairement que je ne reverrais plus mes filles, sauf si j'abandonnais toutes mes décisions de justice française.
Le quadragénaire a en effet obtenu la garde de ses jumelles en 2023, assortie d'une interdiction de sortie du territoire. Mais les autorités américaines rejettent toutes ces demandes. Situation ubuesque pour son avocate, maître Jessica. Jessica Finel, qui estime que la convention de La Haye est bafouée.
Les autorités américaines doivent permettre, et ce sont les mots qui figurent dans la convention, l'exercice paisible du droit de visite du parent qui s'est vu enlever ses enfants le temps de la procédure. Or, en l'espèce, il n'en est rien.
Une juge d'instruction est chargée du dossier depuis le mois de mai. Arnaud, lui, demande à pouvoir au moins voir ses filles en visio deux fois par semaine.
En 2023, 661 enlèvements parentaux ont été signalés dans notre pays, selon l'association baptisée 116-000 enfants disparus.
France Inter, le 13-14... Jérôme Cadet.
Côté politique, ce 31 sera marqué ce soir par les vœux aux Français du président de la République, Emmanuel Macron. Ils seront diffusés sur Inter à partir de 20h. Le chef de l'État qui a été devancé ce matin par son Premier ministre, François Bayrou, fin de visite à Mayotte et La Réunion. Et ces quelques mots avant de monter dans son avion.
Je souhaite la réconciliation. On a traversé des périodes dans lesquelles il y a des fractures et des affrontements et des gestes et des mots qui, pour moi, ne sont pas acceptables. Ces affrontements-là, ils doivent céder la place à la réconciliation et c'est le sens de toute ma vie. Deuxièmement, je souhaite l'action. Je trouve qu'une partie du désenchantement des Français vient de ce qu'ils n'aperçoivent pas. L'efficacité qu'ils sont en droit d'attendre de ceux à qui ils confient le pouvoir. Et je souhaite la stabilité. Je pense que c'est un pays qui a besoin qu'on calme ces accidents successifs qui donnent de la France et à chaque famille des Français le sentiment qu'il n'y a rien sur quoi on puisse construire, puisque tout est renversé à chaque minute.
François Bayrou à La Réunion ce matin au micro Inter de Marie Mollet, le Premier ministre qui participera à son premier Conseil des ministres. Ce sera vendredi à l'Élysée. Mais avant cela, arrêtons-nous un instant sur cette visite hier à Mayotte, le chef du gouvernement qui a détaillé son plan de reconstruction pour l'archipel. Avec cette annonce qui a retenu l'attention, nous allons déployer, a dit François Bayrou, 200 terminaux Starlinks pour assurer les télécommunications en urgence. Alors les Starlinks, ce sont les terminaux qui fonctionnent avec les satellites du milliardaire américain Elon Musk. Et cette référence n'a pas du tout plu aux spécialistes français, le groupe Orange. Victor Vasseur, vous êtes avec nous. Pourquoi ce choix, Victor ?
Question d'efficacité pour le gouvernement. Passer par Starlinks, c'est le meilleur moyen de retrouver rapidement du réseau au débit sur l'île, explique à France Inter un porte-parole de SFR sur place. D'ailleurs, l'opérateur va recourir aux antennes d'Elon Musk dans les prochaines semaines. Ce réseau ne s'appuie pas sur des antennes à terre qui ont été balayées par le cyclone, mais sur un réseau de mini-satellites en orbite à basse altitude. Mais cette annonce de François Bayrou concernant Starlink a engendré un coup de gueule d'Orange qui déplore le manque de reconnaissance du gouvernement. L'opérateur indique qu'il y a 10 jours, seulement 25% de la population était couverte par son réseau mobile, contre 78% aujourd'hui. Orange estime que le Wi-Fi proposé par Starlinks est moins performant que son réseau mobile. En tout cas, Internet est indispensable pour le redémarrage des activités économiques de l'île, pour permettre aussi à la préfecture de déployer les secours et acheminer les denrées. Autre exemple, rien que pour payer dans un supermarché avec sa carte bleue, une connexion Internet est nécessaire.
Là, on parle de Mayotte, Victor, mais c'est terminaux de Musk, on les utilise déjà en métropole ?
Ah oui, Starlink s'est autorisé en France depuis plus de 3 ans. En 2022, 10 000 utilisateurs étaient recensés selon les derniers chiffres en date. Les clients, des habitants en zone blanche, des propriétaires de résidences secondaires et des entreprises. Tout le monde peut acheter son antenne à la Fnac ou chez Boulanger. Ça coûte 350€ sans compter l'abonnement mensuel d'une 40aine d'euros.
Explication signée Victor Vasseur. Elon Musk dans le débat politique en France donc. Et que dire de l'Allemagne, pays en pleine campagne électorale, les législatives le 23 février prochain. Et l'homme le plus riche du monde est bien décidé à influencer les électeurs allemands. Tribune dans la presse ce week-end pour soutenir le parti d'extrême droite AfD, suivi depuis de nombreux messages sur les réseaux sociaux, à tel point que le chancelier actuel Olaf Scholz dénonce des ingérences. Alors qu'en disent les Allemands ? Reportage à Berlin, Sébastien Baer.
Deux messages postés sur X encore la nuit dernière. Le premier pour prédire une victoire de l'AfD, l'extrême droite. Le second pour qualifier le président allemand de tyran antidémocratique. Des interventions que Vanessa, croisée près de la chancellerie à Berlin, ne comprend pas.
La question c'est qu'est-ce qu'il cherche ? Je ne comprends pas quel est son but. C'est très étrange. Pourquoi quelqu'un qui vit aux États-Unis, donc très loin, insulte-t-il comme ça nos politiciens ? Ils ont leurs propres problèmes là-bas. Pour moi, tout ça n'a aucun sens.
Thomas de Dussel Düsseldorf est venu passer le réveillon dans la capitale, il dénonce l'ingérence de Musk dans la campagne.
Il manipule et influence les électeurs allemands. Ça n'est pas une bonne chose qu'il s'en mêle. Et peu importe qu'il ait une usine Tesla en Allemagne, ça n'a rien à voir avec la politique et ça ne lui donne pas le droit de s'impliquer. Il dérive dans une direction que je ne trouve pas bonne.
Pour Uwe, 59 ans, une seule solution, ignorer Elon Musk et ses déclarations incendiaires.
Ça m'est complètement égal. Il faut décider par soi-même. Moi, je ne veux pas de la AfD. Je ne veux pas de nazis. Donc, peu importe ce qu'il peut raconter. Il est très influent, oui, mais pas sur moi.
L'ingérence de Musk fait ce matin encore la une de plusieurs journaux, inquiet de l'influence du multimilliardaire dans la campagne, à moins de 2 mois du scrutin. Berlin, Sébastien Baer, France Inter.
La trace de Musk qui nous conduit également aujourd'hui jusqu'en Ukraine. Le milliardaire participe, on le sait, aux discussions entre Donald Trump, le futur président américain, et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Des Ukrainiens et des Russes qui ont procédé hier à un vaste échange de prisonniers, 300 au total. C'est le 11e du genre depuis le début du conflit, mais celui-ci est particulier, avec des retrouvailles pour les détenus un 30 décembre, Virginie Pironon.
Selon le président Volodymyr Zelensky, 189 prisonniers ukrainiens ont été libérés des geôles russes. La plupart d'entre eux avaient été capturés au tout début du conflit à Mariupol ou en mer Noire sur l'île aux serpents. 33 mois de captivité pour Rostislav, garde-frontière maritime. Sur des images diffusées à la télévision ukrainienne, on le voit, visage émacié, tenir fermement par la main son petit garçon qui vient tout juste de fêter ses 6 ans et compte bien désormais aller voir les poissons avec son père. Un peu hagard, un autre soldat, bonnet noir sur la tête, drapeau ukrainien sur les épaules, cherche ses proches du regard. Sa femme n'a pas pu venir, mais il la rejoindra bientôt.
Je n'arrive pas à y croire, même là, en vous parlant. Je garde les mains dans le dos, c'est devenu une habitude. Mais je vais arrêter, car je suis devenu un homme libre.
Côté russe, la plupart des prisonniers libérés ont été capturés lors de l'offensive ukrainienne à Koursk, en territoire russe, qui dure depuis le mois d'août. C'était un des objectifs déclarés de Kiev, capturer le plus de prisonniers possible pour pouvoir ensuite les échanger.
Virginie Pironon, les Russes qui ont beaucoup plus progressé en Ukraine cette année que l'an dernier, près de 4000 km² selon le décompte de l'agence France Presse ce matin. C'est 7 fois plus qu'en 2023. J'ajoute que des militants pro-russes ont lancé une attaque ce matin contre les sites de plusieurs collectivités françaises, collectivités locales comme les villes de Tarbes, Pau, Marseille ou encore le département des Landes, mais pour l'instant des impacts et des conséquences limitées et pas de fuite ou de vol de données de constater. Mais on le voit, on l'a vu avec les échanges de prisonniers, on le voit aussi au sujet du gaz, il y a des discussions entre les deux camps, entre les camps ukrainiens et les camps russes. On se parle donc au sujet du gaz, donc notamment puisque ce soir le contrat de transit du gaz russe vers l'Europe via l'Ukraine, ce contrat arrive à échéance. Pour rappel, 14 milliards de mètres cubes de gaz russe sont livrés à l'Europe via deux gazoducs, dont l'un passe par l'Ukraine, qui touche de l'argent pour cela, car l'embargo sur le gaz russe ne va démarrer qu'en 2027. Bonjour Thierry Bross.
Bonjour.
Vous êtes professeur à Sciences Po, conseiller énergie à l'Institut Jacques Delors. Cela nous rappelle qu'on importe encore du gaz russe. On en importe beaucoup, nous, Français ?
Alors, si on regarde au niveau de l'Union européenne, notre demande, elle est... la Russie nous fournit à peu près 20% de notre demande gazière. Donc c'est beaucoup. Pour la France, c'est un peu différent parce qu'on n'importe pas de gaz gazeux, mais on importe du gaz naturel liquéfié. Et donc en moyenne, on peut dire qu'en Europe, la Russie, ça représente 20% de notre demande gazière.
Pourquoi est-ce qu'on continue d'importer ce gaz ? Parce qu'il est moins cher que d'autres, par exemple que le gaz américain ?
Alors, oui, il est moins cher. Et donc, effectivement, quand vous faites du business, c'est malheureusement plus intéressant d'acheter du gaz russe que du gaz naturel liquéfié. Et puis, deuxièmement, il est difficile de trouver une alternative à ce gaz. C'est-à-dire que la Commission européenne souhaite mettre un embargo sur le gaz russe à l'horizon 2027 parce qu'avant, il n'y a pas de nouveaux projets de production de gaz dans le reste du monde qui pourrait venir nous aider pour remplacer ce gaz russe. Donc, c'est pour ça qu'on est un peu coincé sur ce sujet-là. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'en 2024, la part de gaz russe dans l'Union européenne a malheureusement augmenté.
Elle est tenable, cette date de 2027. Thierry Bross, en préservant un équilibre économique sans faire exploser la facture ?
Oui, je pense que la Commission, dans ses attendus, avait bien réfléchi à cela et elle a mené une politique d'embargo tout à fait tenable. Rappelez-vous, on a d'abord mis un embargo sur le charbon russe en 2022, puis un embargo sur le pétrole et les produits pétroliers russes en 2023. Donc oui, on peut le faire et oui, on devra le faire. Mais la question aujourd'hui, c'est celle du transit en Ukraine. Vous l'évoquiez, c'est 5% de notre demande européenne et remplacer ces 5% demain au 1er janvier, ça va être compliqué et ça peut être plus cher.
À court terme, est-ce que vous pensez que les Ukrainiens vont fermer le robinet parce qu'ils ont intérêt à faire passer ce gaz sous leurs pieds et ils reçoivent de l'argent pour cela ?
Oui, alors évidemment, tout le monde est moralement contre. Maintenant, quand on regarde au niveau business, tout le monde y a un intérêt plus ou moins caché. Les Ukrainiens reçoivent l'équivalent d'un milliard de dollars pour ce service. Les Russes sont payés pour leur gaz et les pays enclavés comme la Slovaquie, la Hongrie ou l'Autriche reçoivent du gaz moins cher que s'ils devaient prendre un gaz alternatif plus cher. Donc effectivement, vous allez avoir une différence entre les positions politiques et la réelle politique.
Décision attendue dans les prochaines heures. Merci Thierry Bross, professeur à Sciences Po, conseiller énergie à l'Institut Jacques Delors, d'avoir accepté l'invitation de ce 13-14. Sur un autre front, en Syrie, on a appris ce matin que l'armée française avait frappé dimanche des positions du groupe État islamique dans le pays, dans le cadre de la coalition anti-djihadiste. C'est la première opération de ce type menée en Syrie depuis la chute de Bachar el-Assad. Le budget des armées françaises, comme les autres budgets, qui sera l'an prochain un copier-coller de celui de cette année, faute de budget voté à l'Assemblée. Les députés ont voté une loi spéciale et le gouvernement a donc reconduit le budget 2024 grâce à un décret qui a été publié ce matin au Journal officiel. Bonjour Claire Chaudière.
Bonjour à tous.
Bon, en temps normal, l'argent est débloqué pour un an, le 1er janvier. Cette année, c'est différent.
Oui, pour assurer les grandes missions de l'État, payer les salaires et les frais de fonctionnement, le décret et la circulaire publiée ce matin ne prévoient de débloquer que 25% seulement des crédits de l'année qui va démarrer en répliquant, vous l'avez dit, la répartition et les montant adopté l'an dernier. C'est donc l'équivalent d'un trimestre de dépenses version 2024 qui sera accessible dès demain aux différents ministères. Alors pourquoi 25%? Eh bien parce qu'il faut envisager le scénario catastrophe dans lequel le Parlement ne parviendrait pas du tout à se mettre d'accord sur un budget en 2025. Il faudrait alors tenir jusqu'à décembre sans impayé, avec cette enveloppe mal ajustée qui n'intègre même pas l'inflation. En débloquant l'argent par trimestre, le gouvernement, nous indiquent plusieurs sources parlementaires, veut éviter les dérapages. D'ailleurs, tout investissement, tout recrutement exceptionnel devrait être reporté ou, s'il y a urgence, discuté et contrôlé par le Parlement lui-même au fil de l'eau. Chaque semaine, tous les 10 jours maximum, les commissions des finances des assemblées vont regarder dans le détail tout ce qui sortirait des dépenses ordinaires des différents ministères du jamais vu, en attendant que cette situation prévue pour être transitoire prenne fin.
Voilà, en attendant qu'un budget soit voté pour 2025. Et pour cela, le ministre de l'Économie, Éric Lombard, annonce à l'instant qu'il va consulter d'ici le 14 janvier l'ensemble des forces politiques. Merci Claire Chaudière. Toujours au rayon budgétaire, et nous vous en parlions dès hier dans ce 13-14. Les aides pour l'embauche d'un apprenti l'an prochain vont être réduites, montant abaissé à 5 000 euros pour les PME et 2 000 euros pour les entreprises les plus grandes. Aujourd'hui, c'est 6 000 euros pour toutes les entreprises. Bonjour Mathilde Dehimi.
Bonjour Jérôme.
Comment réagissent les professionnels ?
Eh bien, paradoxalement, de prime abord, ce sont ceux qui vont toucher le plus, qui s'en satisfont le moins, à savoir les toutes petites entreprises. TPE et PME, elles perdent 1 000 euros par apprenti. Elles ne voient pas d'un bon œil que les grosses boîtes touchent aussi des aides, même si elles sont désormais inférieures. Michel Picon, de l'Union des entreprises de proximité.
Leur grignoter 1 000 euros pour donner au groupe Air France, EDF, les grandes compagnies d'assurance, les grandes banques, 2000 euros lorsqu'elles vont former un cadre supérieur, je trouve ça pas un bon arbitrage. L'effort de l'entreprise, il est sans commune mesure avec l'effort que doit faire un pâtissier qui prend un gamin à qui l'école n'a pas réussi.
Le MEDEF, qui représente ces grandes entreprises, ne nous a pas encore répondu ce midi. Mais ces derniers jours, des patrons dans le flou s'interrogeaient sur le fait de former de nouveaux apprentis si les aides diminuaient trop. Jean-Hugues Duménil de la CPME.
C'est pas une bonne nouvelle, en sens que effectivement ça va coûter un peu plus cher pour les entreprises, mais passer de 6 000 à 5 000 euros, c'est pas ça qui fondamentalement va changer les choses. Donc on espère que les chiffres de l'apprentissage vont se maintenir.
Rien ne pressait, regrettent aussi certains patrons. Il y a peu de contrats d'apprentissage signés pendant les fêtes. Eux auraient aimé que ces arbitrages se fassent comme d'habitude lors des débats parlementaires futurs sur le budget.
Merci Mathilde Dehumy. C'est l'un des premiers Français déjà en 2025. Il s'appelle Manuel Cousin, il est skipper. Engagé dans le Vendée Globe, il navigue actuellement au sud de la Nouvelle-Zélande, pays qui a déjà basculé en 2025. Mais pour la plupart d'entre nous, la bascule, ce sera dans un peu plus de 10 heures. Maintenant, nous verrons dans un instant que certains recherchent la sobriété pour cette soirée de fête. Pour d'autres, c'est avant tout en petit format, par exemple ces chers bourgeois.
Soirée petit comité de prévu à Caen. On va faire jeu de société.
Vous allez pas danser un peu
Ah bah si, il va y avoir la musique quand même. Rock, peut-être reggae, peut-être un peu de disco, ça va être plutôt cool.
Et vous?
On va chez une copine, on sera quatre, on va manger des pizzas et puis voilà, on va tranquille.
Et vous, faites quelque chose?
Rien du tout ma chère dame, parce que je suis commerçant, on va se reposer.
Moi je préfère être peu nombreux et profiter pleinement des gens avec qui je suis.
Dans mon entourage c'est pareil, d'habitude on est plutôt une bonne tablée et là tout le monde fait quelque chose de plus simple, plus soft. Je sais pas si c'est parce que les fêtes tombent en début de semaine. Beaucoup de gens travaillent.
Et c'est parfait comme ça.
C'est le plus important, la famille.
Vous ne serez pas sur votre 31?
Non, on ne sera pas sur notre 31, mais au moins on sera réunis.
C'est ce qu'il y a de plus merveilleux.
Voilà, des réactions recueillies par France Bleu Cotentin. Et puis il y a tous ceux qui veulent rester sobres. Des personnes abstinentes qui, pour échapper à la pression, parfois pressante, c'est vrai, de consommer de l'alcool dans ce 31 décembre, participent à l'un des réveillons organisés un peu partout en France par les Alcoolique anonyme. Et Héloïse Roger, vous avez échangé avec certains d'entre eux.
Madeleine est abstinente depuis près de 3 ans, mais dès la première année, elle a fait le choix du réveillon sobre.
J'avais peur que sur un événement festif, comme j'avais l'habitude de les faire avant, je sois vraiment tentée par l'alcool.
C'était aussi une bonne raison pour éviter certaines réflexions de la part de ses proches.
Ah ben pourquoi tu bois plus, t'étais pas la dernière à boire avant, ou tu abîmes mes verres en cristal avec tes sodas, ou des choses comme ça quoi. Aujourd'hui encore, hein, je reste jeune abstinente et recevoir ce genre de réflexion, c'est pas facile pour moi soit de passer outre, soit d'être capable d'y répondre de façon bienveillante.
Elle s'est aussi rendue compte que les soirées avec des personnes alcoolisées l'ennuyaient terriblement, voire la rendaient mal à l'aise. Nathalie, elle, se sent en décalage.
Au bout de 2 verres, tous les gens qui ont bu se ressemblent sur Terre et leurs conversations et leurs comportements ne sont pas forcément les plus intéressants parce que aussi, il y a sûrement un phénomène de miroir. C'est-à-dire que je vois comment j'ai pu être, les conneries que j'ai pu dire, les comportements déplacés que j'ai pu avoir.
Participer au réveillon sobre, c'est un bon moyen d'éviter un repli sur soi. Stéphane a renoué avec cet événement depuis peu.
Après plusieurs réveillons un peu tout seul, finalement, j'ai un peu repris le chemin des réveillons à 1 parce que il n'y a pas de raison de s'empêcher de faire la fête aussi ce soir-là.
Ce qui compte également pour lui, c'est d'être un soutien pour les nouveaux abstinents.
Explication et reportage Héloïse Roger. Avant de revenir au réveillon, de parler des réveillons solidaires dans quelques minutes avec vous, retournons prendre des nouvelles de la flotte du Vendée Globe avec ce duel, ce mano à mano en tête de flotte. Entre Charlie Dalin et Johan Richaume, les deux ne se quittent plus depuis plusieurs semaines maintenant. Et hier soir, c'est Charlie Dalin qui a repris l'avantage sur Johan Richaume. Les deux sont en train de remonter l'Atlantique Sud. Ils sont au large du Brésil. C'est un duel qui passionne en ce moment tous les fans de voile et du Vendée Globe, comme l'un des plus illustres marins français, l'un de nos plus beaux palmarès, Loïc Perron.
Rien n'est jamais fini, ils le savent très bien jusqu'au bout. Mais c'est une motivation assez géniale que d'avoir un lièvre. Être tout seul, c'est jamais facile de garder un rythme permanent en étant tout seul. On a juste nos chiffres sur les écrans, on a les positions des bateaux évidemment toutes les 3 heures. Mais là, d'avoir quelqu'un en contact, c'est une motivation absolument géniale. Ils sont habitués, ils ont fait des Figaro, ils ont gagné, ils ont fait beaucoup de courses, et l'un et l'autre. Mais ce qui est assez sympa, je trouve, et c'est très motivant évidemment, c'est de se caler sur un autre bateau, surtout un concurrent que l'on connaît, qu'on apprécie, qu'on respecte. C'est la situation rêvée quasiment.
Vous les connaissez bien. Selon vous, lequel a l'expérience pour passer la ligne en tête ?
Et l'un et l'autre. Tout le problème et toute la beauté des courses à la voile, c'est que tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, on ne peut faire aucun pronostic. Évidemment, ceux qui ont 600 000 d'avance, presque 1200 km sur les autres, ont un peu plus de chance de finir devant. Mais rien n'est écrit et c'est ce qui fait toute la beauté de cette activité étonnante.
Un marin qui ne se mouille pas. Loïc Perron au téléphone de Philippe Randé, 13h29 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo de Sébastien Léas. Puis à 13h30, comment faire tomber la solitude dans une journée comme celle-ci, un 31 décembre, si vous organisez des soirées, des réveillons solidaires pour vos voisins ou d'autres, ou si vous accueillez des inconnus chez vous, histoire de passer un moment ensemble. Vous êtes nombreux à le faire, je le sais. Venez nous en parler, 01 45 24 7000. Vous passez également via l'application France Inter. 13h45, c'est le meilleur de notre feuilleton aujourd'hui avec des agriculteurs qui ne sont pas issus du milieu paysans. Puis 13h50, c'est la France, avec Cyril Petit du journal Ouest France. Bonjour Cyril.
Bonjour Jérôme.
Où nous emmenez-vous aujourd'hui ?
Eh bien de Saint-Philbert-de-Bouëne en Vendée à Montvalaisan, en Savoie, en passant par Fontoise en Moselle, je vous raconte, Jérôme, des petites histoires de 2024 qui vont nous donner le moral avant de basculer.
Elles vont nous faire du bien. Et puis dans la foulée, là encore, ça va nous faire du bien. Le meilleur de C'est une chanson, Billie Jean, Michael Jackson, avec le danseur étoile Carl Paquette. À tout de suite.
Tous les enfants doivent faire attention dans la rue, surtout quand ils y vivent. Tous les enfants ont des devoirs, ils ont aussi des droits. En France, plus de 2000 enfants vivent à la rue. En faisant un don, vous pouvez les aider à retrouver un logement digne. Fondation Abbé Pierre, notre nom va changer, pas notre combat contre le mal logement. Aidez-nous à agir, faites un don sur fondationabbépierre.fr.
Le Crédit Mutuel, parrain de toutes les musiques, tous les talents, donne-le-la à Prodige sur France 2. Rendez-vous pour la grande finale. Retrouvez les jeunes virtuoses, toujours accompagnés par l'orchestre Divertimento, pour une dernière soirée riche en émotions. Chants, danse et instruments, ils seront départagés par un jury d'exception. Découvrez qui remportera Prodige 2024. Prodige, la grande finale. Présentée par Faustine Bollard, jeudi 2 janvier à 21h05 sur France 2 et France TV avec le Crédit Mutuel.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec les œufs de Loué. Savourez les œufs fermiers de Loué, de poules élevées en liberté. Loué, libre par nature.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Encore beaucoup de grisaille.
Oui, l'année va se finir sous les nuages bas sur la plupart des zones de plaine, que ce soit du sud-ouest ou de la moitié nord jusqu'au Lyonnais. Alors les grisailles ne sont pas compactes, quelques trouées arriveront même à se dessiner. Sous l'impulsion d'un vent bien sensible, on trouvera d'ailleurs plus fréquemment ces trouées près de les côtes de la Manche. Et puis si vous pouvez monter un peu en altitude, au-dessus de 500-700 mètres d'altitude généralement, vous passerez au-dessus de cette couche nuageuse. D'ailleurs les Pyrénées, les Alpes, le Massif central, le Jura, les Vosges, mais aussi le Morvan passeront l'après-midi sous un soleil radieux. Après-midi aussi également ensoleillé entre sur une large moitié ouest de la Corse et sur le sud de l'Alsace. En revanche, sur la façade orientale de la Corse et sur le pourtour méditerranéen, le ciel sera plus partagé à cause d'entrées maritimes qui réduiront les éclaircies. Et puis l'ambiance reste encore assez fraîche dans l'ensemble. Le paradoxe de ces situations, c'est qu'il fait parfois plus frais en plaine qu'en montant un peu sur les hauteurs.
D'accord.
Exemple, seulement 6 degrés à Toulouse cet après-midi, mais 12 degrés du côté de Bagnères-de-Luchon, qui est à 630 mètres d'altitude. Il fera aussi 12 degrés à Aurillac, alors qu'on attend 3 degrés à Clermont-Ferrand. Prévoyez 1 degré à Strasbourg et à Lyon, 5 à Paris, 12 degrés du côté de Brest et 16 à Ajaccio.
Merci Sébastien Léas. Météo France.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
C'est un soir où la solitude est plus difficile à supporter que d'autres quand on entend les bruits de fête chez ses voisins, les sonneries sur les paliers, les cris de joie et les klaxons au lointain. Le 31 décembre, on n'est pas synonyme d'allégresse pour tous et pourtant parfois, il suffit de peu, d'une initiative, d'un appel, d'un mouvement pour que quelques personnes se retrouvent. Cela va se passer un peu partout en France ce soir. Vous appelez ça Réveillon solidaire, vous appelez ça comme vous voulez. Venez nous en parler si vous en organisez, si vous y participez à quelques-uns ou plus nombreux, ou si vous hésitez. 01 45 24 7000, on peut toujours essayer de vous convaincre. Vous passez également via l'application France Inter. Je vous présente nos deux invités. Alexandre Gosset, bonjour.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes le cofondateur du Club Colette. Le Club Colette, au départ, propose des habitations, c'est ça ?
Tout à fait. Au début,
des logements ?
On propose des cohabitations, des étudiants et des seniors. Et puis, il y a 3 ans, au moment des fêtes de fin d'année, on a envoyé un email à tous nos membres qui hébergeaient des jeunes pour leur souhaiter des bonnes fêtes. Et en retour, beaucoup nous ont dit qu'ils étaient seuls.
Et donc, ça s'est transformé en réveillon entre générations.
Et ça s'est carrément transformé en club d'activités pour les seniors, puisque maintenant, depuis 3 ans, on organise plusieurs centaines d'activités par mois. Et il y en a eu 6 000 cette année, qui réunissent donc des seniors au travers d'activités dont je vous parlerai dans quelques instants.
Avec certains réveillons qui ont donc lieu ce soir entre générations. Avec nous également Florian Ripper, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur de l'association Studhelp. Stud, ça fait penser à étudiants et help à aider en bon français. Donc au départ, vous venez en aide aux étudiants, c'est ce que je
exactement.
Comprends.
Le concept initial en fait, de l'association, c'est de mettre en relation des étudiants qui sont dans le besoin, qui nécessitent de l'aide alimentaire, avec des particuliers qui vont pouvoir réaliser pour eux quelques courses. Et l'objectif, c'est vraiment d'aller au-delà d'un simple don alimentaire et de pouvoir créer du lien social entre l'étudiant et le particulier qui va pouvoir l'accueillir.
Et donc désormais, des solutions pour des réveillons en groupe ?
Exactement. L'année dernière, on a fait un sondage auprès de nos bénéficiaires et on s'est rendu compte que plus de 73% de nos bénéficiaires passaient les fêtes de fin d'année seuls. Et on a décidé en fait, d'agir en créant notre plateforme Les Repas Solidaires, qui permet d'accueillir du coup, des étudiants qui sont seuls et isolés pour les fêtes de fin d'année.
Je vous donne un chiffre pour débuter. En 2021, selon le baromètre Harris Interactive EuroSagency pour la chaîne Info LCI, 63% des personnes interrogées prévoyaient de rester chez elles le 31 décembre sans invité extérieur. Alexandre Gosset, quel est le profil des gens qui vont rester seuls ou qui ont plus de risques, si je puis dire, de rester seuls ce soir ?
Alors, à mon avis, ce sont les personnes qui ont un peu plus de 60 ans, qui sont des retraités. On sait qu'une personne sur cinq n'a pas d'amis au-dessus de 60 ans. Ça peut s'expliquer soit parce qu'on passe à la retraite, ou alors parce qu'il y a une fragmentation au niveau de la famille. On n'est pas forcément habitant de la même région que ses enfants. Donc, aujourd'hui, chez Colette, c'est plutôt des femmes de 60-65 ans qui sont membres du club.
Comment se passe la mise en relation entre les générations, entre des jeunes, des plus âgés qui veulent se rencontrer ce soir ?
Alors, sur la plateforme donc, du club d'activité, donc, qui s'appelle Club Colette, c'est une application sur le smartphone. Donc, à tous ceux qui nous écoutent, vous pouvez télécharger l'application, vous créer un profil en quelques secondes et parcourir donc, toutes les activités qui vous sont offertes pour y participer donc, autour de chez vous. Donc, il y a des balades canines, il y a des karaokés, des soirées ce soir ou des dîners.
Et les étudiants de votre côté, Florian Ripper, sont des étudiants qui ne rentrent pas chez eux, essentiellement, qui sont seuls,
exactement.
Qui ne peuvent pas retrouver leur famille.
Sur nos 12 000 bénéficiaires, on en a plus de 80% qui sont des étudiants internationaux, du coup, qui sont complètement isolés de leur famille. Et on a aussi beaucoup d'étudiants nationaux qui, malheureusement, ne peuvent pas se payer un billet de train aller-retour pour rentrer dans leur famille en province ou autre. Donc, c'est beaucoup de profils comme ça. Ouais.
Alors, ils sont accueillis chez des bénévoles, hein, en fait, ce sont des personnes qui
exactement.
Sont volontaires. C'est ça, je crois que c'est votre cas. Virginie, bonjour.
Bonjour.
Vous habitez Paris. Qu'est-ce qui va se passer chez vous ce soir, Virginie ?
Écoutez, nous accueillons plusieurs étudiants, en fait sept. À travers ces sept étudiants, c'est un peu tous les continents, que ce soit l'Afrique, l'Amérique ou l'Europe ou même l'Inde. Donc ça risque d'être très joyeux et moi-même j'ai vécu des réveillons, et que ce soit de Noël ou Nouvel An, seul quand j'étais jeune. Et après avoir fait un parcours de vie, je m'étais toujours dit que je réparerais ça. Donc aujourd'hui, c'est le cas. Et je suis bien contente d'avoir rencontré l'association Studhelp.
Vous en gardez un souvenir douloureux, si je comprends bien, de ces réveillons toute seule. C'est ça qui vous a incité ?
Oui, effectivement. Bien que j'essayais de me le cacher, mais il fallait bien avouer que j'étais triste, à la vérité. La solitude est quelque chose de difficile à traverser.
Donc vous serez combien chez vous ce soir ?
9.
Vous serez 9. Il a fallu convaincre des membres de votre famille, peut-être ?
Un peu, mais finalement, je pense qu'on a fait déjà l'expérience à Noël. Là, on avait rencontré un Africain qui venait du Congo, avec qui on a eu une discussion passionnante sur l'Afrique et sur la France-Afrique. Et du coup, ça a levé surtout des pudeurs, des timidités ou des réserves un peu inutiles, en fait.
On donne donc et on reçoit aussi.
Briser la glace.
On donne et on reçoit aussi, c'est ce
ça.
Que je comprends, Virginie. Un dernier mot, qu'est-ce que vous cuisinez ? Chacun amène quelque chose ? C'est vous qui cuisinez ce soir ?
Alors, c'est nous qui cuisinons, effectivement.
D'accord.
Alors, c'est mon mari qui va charger tout ça, parce que c'est lui qui est en cuisine. Donc, à lui de faire honneur, puisque je pense qu'ils viennent tous un peu goûter un peu de la culture française. Comme le disait le fondateur, c'est beaucoup d'internationaux. Quand même.
Merci, Virginie.
Donc, ça sera du poisson.
Ouais, voilà, du poisson. Je vous souhaite un excellent réveillon et bravo encore pour cette initiative, Florian Ripper. Il y a un échange, voilà, on le comprend.
C'est l'objectif, c'est un peu comme chez Colette, du coup l'objectif c'est vraiment la création de liens sociaux qui va se faire entre l'étudiant et le particulier, et surtout rappeler que bah, mine de rien c'est des étudiants qui sont dans le besoin tout au long de l'année et pas que sur les périodes de fin d'année du coup, donc on incite vraiment les gens qui le peuvent à s'inscrire sur Studel pour aider des étudiants tout au long de l'année.
Est-ce qu'il peut y avoir des réserves à lever Alexandre Gosset, accueillir des inconnus chez soi? J'ai pas eu le temps d'en parler à Virginie, mais c'est pas forcément tout à fait naturel.
Alors, il y a des réserves, mais donc évidemment, le risque zéro n'existe pas. On peut avoir des doutes sur les personnes qu'on va accueillir, mais c'est pour ça qu'on est là. Donc, les plateformes comme celle de Florian ou Colette, on est là pour vérifier les profils, on est là pour filtrer les personnes qui sont mal intentionnées. Et donc, on va en fait lutter contre l'impersonnalisation. C'est ce qu'on appelle donc, pour rassurer. Donc, on crée des cadres de confiance pour que les gens puissent se retrouver sans que ça crée de problème.
Quand ça se passe chez eux, voilà, il peut y avoir ces petites interrogations. Là, ça se passe dans un restaurant. Nous allons dans le village du Thor, département du Vaucluse, retrouver Fred Corda. On l'a perdu, il avait les mains dans la farine il y a une seconde, il fait ses pizzas dans sa pizzeria la Sardaigne. Il organise ce soir un repas solidaire. On va le retrouver dans une minute. Fred Corda, je voudrais juste qu'on écoute, parce que ce matin il nous a envoyé un petit message. C'est Corinne, l'association s'appelle Couleur des Liens, à Privas, en Ardèche. Réveillon solidaire ce soir, pour elle, pour la première fois. 150 personnes inscrites.
Ce soir, on fait la fête dans la salle municipale de Privas, qui a été mise à disposition donc, par la mairie. Là, on est en train, donc c'est pour ça, c'est un petit peu chaud, on est en train d'organiser, de décorer, comme il se doit, donc, le lieu. Qu'est-ce qu'on mange? Quelques biscuits apéritifs et des quiches et des tartes qu'on a préparées hier. Le principe, c'est que les invités viennent avec leur dessert, donc on va pouvoir partager plein de saveurs différentes à ce moment-là. Et on a eu de la chance aussi, on a des partenaires locaux là, qui nous ont aidés sur les mandarines, par exemple, qui vont être distribuées, ainsi que les papillotes. Alors, en fait, oui, 12 euros, c'était un prix indicatif. Donc, il y a des personnes qui ont pu mettre plus, mais il y a aussi des personnes qui ont mis moins. Mais c'est le centre social qui a pris le risque de pouvoir quand même faire fonctionner ce réveillon. Mais c'était ce qu'on voulait, que vraiment, même toutes ces personnes puissent être avec nous.
Corinne Jury, coprésidente de l'association Couleur des Liens, donc ce repas ce soir à la salle municipale de Privas. Privas, c'est une petite commune, on n'est pas dans une grande métropole. Alexandre Gosset, on est plutôt pour des gens qui vont rester seuls ce soir dans un phénomène de ville, à la campagne. Ça concerne finalement tout le monde?
Alors, Colette, c'est 15 villes en France, hein, donc les principales comme Lyon, Bordeaux, Marseille. Pour toutes les personnes qui ne sont pas dans les grandes villes, on organise en fait tous les jours à 10h donc des conférences en ligne qui sont des lieux d'échange, de partage ou de sport. Donc ça permet aussi de répondre aux personnes qui ne sont pas dans des villes où Colette propose des activités en présentiel.
Est-ce qu'on a retrouvé notre pizzaiolo du Vaucluse?
Oui, bien sûr, il est là.
Ah. Comment allez-vous, Fred Corda?
Impeccable, vous faites aller, on est en pleine préparation pour ce soir.
Réveillon solidaire, ce soir dans votre pizzeria, entre 50 et 60 personnes attendues, c'est ça?
On est plus sur les 80 maintenant.
80, vous avez du mal à dire non, vous, j'ai l'impression.
Non, on ne peut pas dire non, c'est impossible. On ne peut pas laisser tous ces gens dehors, c'est impossible.
Comment vous est venue cette idée? Dîner à 15 euros, c'est ça? Et gratuit pour ceux qui ne peuvent pas payer?
Oui, mais disons que je suis seul un peu dans la vie, moi aussi, donc j'ai passé un réveillon de Noël tout seul avec mes deux chiens, et je me suis posé un million de questions. J'ai dit donc, par contre, mon restaurant est enfermé, j'ai dit pourquoi pas faire quelque chose pour ces gens mais qui sont tout seuls chez eux, personnes âgées, handicapées, enfin, tout est coincé, quoi. Et voilà, donc l'idée m'est venue comme ça, et j'ai envoyé un petit peu ça sur mon Facebook, et puis d'un coup, effectivement, ça fait boule de neige entre mes fournisseurs, mes brasseurs que j'ai tous les jours au resto, qui m'ont dit « Fredo, c'est super, on peut te donner un coup de main ». Effectivement, Guillaume Rouget, notre très grand pâtissier de Velleron, qui nous a offert 8 bûches de Noël, mais un truc dans notre monde. Nathalie, en face, où je prends mon pain tous les jours à Intermarché. J'ai le bois Fleury à côté, qui nous offre des fleurs, une petite tombola pour amener 4 sous de plus. Enfin, et la solidarité fait que Netto aussi vient d'arriver, m'a amené des mandarines, m'a amené des toasts, m'a amené du saumon, des amis de tout part qui viennent et qui amènent de tout. On a eu déjà quelques chèques de personnes qui ont vu l'info, qui sont passées au resto. On a préparé une urne qui commence à se remplir et j'espère qu'elle sera bien pleine.
Ça vous surprend, voilà, tout ça, cet engouement? Ça vous surprend?
Que les gens, je pensais pas autant de personnes, que je toucherais autant de personnes.
Ouais.
Effectivement. Mais je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont justement dans cette solitude, hein, qui aimeraient, qui voudraient partager tout, mais qui ne savent pas où s'adresser, ou... Enfin, je sais pas. Mais là, je vois que uniquement sur des réseaux, on arrive à faire des trucs grandioses, comme c'est @ un ami d'enfance. Quand il a vu mon poste, il avait prévu son réveillon à lui. Il m'a dit, Fredo, je laisse tout tomber, je vais avec toi, je t'anime la soirée. Donc, depuis ce matin, il monte son nom et tout. Donc, il y a vraiment une solidarité, effectivement. Bon, et c'est vrai que je suis un peu connu aussi dans le département.
Et voilà, ça explique peut-être aussi tout cela. Merci beaucoup, Fred Corda, d'avoir été avec nous. Ça se passe donc ce soir chez vous, dans votre pizzeria. C'est dans le village du Thor, dans le Vaucluse. Je dis bravo à Guillaume qui est en ligne avec nous aussi. Bonjour Guillaume. Guillaume, vous m'entendez? On était dans le Vaucluse, on est avec vous en Bretagne maintenant. Vous organisez soit un réveillon solidaire, c'est ça, dans votre commune?
Oui, tout à fait. Ça fait la deuxième année consécutive qu'on a décidé d'organiser avec le CCS de la commune de Rostronin un réveillon solidaire et partagé.
Combien de personnes?
On a bien senti qu'il y avait une demande des gens de ne pas passer le réveillon tout seul ou à deux ou trois et de venir le partager tous ensemble.
Combien de personnes?
Cette année, on a fait entre 50 et 80 personnes. Ça reste largement ouvert. Donc pour une deuxième édition, on est plutôt très satisfait. Et puis ça montre qu'il y a un vrai besoin de passer ces soirées-là de façon conviviale et pas chacun et chacune dans son coin ou dans son salon.
On échange, on danse, qu'est-ce qui va se passer?
Alors on fait un peu de tout. Le principe, c'est que chacun amène une chose à partager pour le repas, et puis peut amener un instrument de musique, peut amener des jeux de société. On a prévu aussi une soirée musicale, évidemment. Et puis, la dernière fois, évidemment, on a eu le droit à des chants, on a eu le droit à des danses, on a eu le droit à des animations assez sympas. Et donc, cette année, ça prend de l'ampleur. Donc, on imagine que l'ambiance sera aussi décuplée.
Danse bretonne, peut-être, ce soir à Rostronin.
Qui sait ? Notamment, évidemment, des danses bretonnes.
Merci, Guillaume. Vous y serez, bien sûr.
Tout à fait, voilà, on y va avec là. Une bonne partie de mes collègues.
Merci à vous de nous avoir appelés de Rostronin, nous étions dans le Vaucluse précédemment. Je remercie également nos deux invités, Florian Ripert, c'est l'association Studelp, Alexandre Gosset, le club Colette. Excellent réveillon à tous, 13h45. Lors de notre feuilleton, pendant deux semaines, nous retrouvons quelques-unes des personnalités dont nous avons partagé la vie ces derniers mois, et dont l'histoire fait écho à l'actualité. La crise agricole, par exemple. Le président pourrait en parler ce soir dans ses vœux. L'un des enjeux, c'est notamment de remplacer les agriculteurs qui partent en retraite. Et ça passe forcément par l'installation de néo-paysans, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas fils ou filles d'agriculteurs. Et notre reporter Maria Melkurdi était allée à leur rencontre dans le Béarn. Ici, Karine, ancienne enseignante, en pleine formation tracteur, avec Olivier.
Alors, on va aller en marche avant. Je vais remettre la première comme on avait mis au début.
Vous sentez comment là?
Trop concentré pour être à l'aise. Voilà, c'est une grosse machine. Voilà.
Alors, le tracteur, ça fait un peu peur aux gens au début. Et quand on est agriculteur, on est amené à travailler avec. C'est un compagnon. C'est lui qui va faire les gros travaux lourds à notre place. Qui va nous préserver le dos, la santé. Bon, c'est bien d'apprendre à l'apprivoiser un peu. Frein à main ici. Et on peut couper le tracteur.
Moi, c'est Olivier, je suis maraîcher, myciculteur.
Myciculteur.
Je fais pousser des champignons. Et occasionnellement, je participe là pour la BDEA à faire des formations. Donc là, la conduite du tracteur, c'est un peu le tracteur pour les nuls. Bon, moi, je suis fils d'agriculteur, donc j'ai manipulé des tracteurs dès enfant. C'est des choses évidentes, mais il faut les apprendre.
Bon, je m'appelle Karine, j'ai 52 ans. J'étais enseignante avant, dans une autre vie, et je me suis installée en 2019. Puisque mon oncle décédé m'a légué les terres autour de la maison. Et voilà, j'élève des chèvres angora pour faire du mohair.
Donc du mohair de la laine.
Voilà.
Est-ce que c'est ce que faisait votre oncle ou est-ce que vous avez tout transformé?
Non, pas du tout. Mon oncle, il faisait du tabac, puis après du maïs. Puis après, il a été malade. La maladie des agriculteurs qui font n'importe quoi avec les pesticides.
Et ça a été prouvé que c'était lié aux pesticides?
Je ne suis pas médecin ni scientifique, hein, mais bon, voilà. Les deux oncles agriculteurs, qui travaillaient donc de la même façon, les deux, ils sont partis avec un cancer.
Et vous, vous êtes dit, je ne veux surtout pas refaire la même agriculture, en fait?
Oui, ça c'est sûr, hein. Comme j'en avais un petit peu ras-le-bol.
De l'enseignement?
Non, pas tellement de l'enseignement, l'administration plutôt.
Et c'est difficile, ça, cet apprentissage-là, parce que c'est quand même un métier très différent par rapport à ce que vous faisiez avant?
Oui, on a des a priori. C'est une grosse machine qui fait du bruit, qui pue, mais bon, qui peut nous aider. Voilà, mais il faut l'apprivoiser. Là, j'en suis à ce stade-là, moi.
Ce tracteur, s'il est bien entretenu, il démarre le matin
et il fait ce qu'on lui demande de faire. C'est vraiment un outil qui facilite la vie. Moi en tout cas, si je devais faire tout ce que je fais avec mon tracteur à la main, là, à l'heure actuelle, je ne serais pas dans le même état de santé au bout de 20 ans d'agriculture.
Qu'est-ce que vous en dites, Karine, quand vous entendez ça?
Oui, c'est ce qu'on me dit, mais après, c'est une autre étape à franchir pour moi. Ma première étape, c'était d'arriver à... Je vais choquer peut-être, à tuer mes poulets. Voilà, ça y est, ça, j'ai passé le cap. Le deuxième cap, c'est d'être à l'aise sur un tracteur.
C'est pas si évident que ça, cette transition, en fait.
Bah non, vous imaginez. Mais bon, je regrette pas. Hein. Le fait d'avoir des terres, qu'est-ce qu'on en fait? Je me voyais pas les faire louer, parce que bon, les agriculteurs de mon village sont sympas, ils m'aident beaucoup, mais je suis pas forcément en accord avec la façon dont ils travaillent la terre. Il y a presque plus d'élevage, ou s'il y en a, c'est pas en plein air, quoi, c'est enfermé. Et donc, moi, je voulais pas travailler comme ça, je voulais pas laisser les terres dans ces conditions-là, donc je me suis dit, bah, je vais le faire moi-même. Allons-y, gaiement! Pour l'instant, je gagne rien, mais bon. Heureusement, il y a mon mari qui travaille et pour l'instant, je gagne pas encore d'argent avec. Je paye les charges.
Et si vous aviez un conseil, vous qui avez peut-être un peu plus de recul, si vous aviez un conseil à donner à Karine, alors qu'est-ce que ce serait?
Trouver d'autres systèmes si ça rapporte pas assez avec le mohair, de trouver d'autres cultures ou une autre forme d'élevage à côté à faire en plus, d'essayer de multiplier. Voilà, par exemple, les poules pondeuses, c'est très très bien. Et bah, de ne pas lâcher parce que nos campagnes se vident, il y a de moins en moins d'agriculteurs. Et moi, qui suis du milieu, ça fait plaisir de voir des gens nouveaux arriver là-dedans, insuffler des idées nouvelles.
On essaye, hein, puis on verra bien. Un jour, ça va marcher.
Une semaine dans la vie des néo-paysans, feuilleton signé Mariam El Kurdi, réalisation Claire Destacan, et vous retrouvez en intégralité sur l'application Radio France.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France. À 13h50, le mardi, Cyril Petit du journal Ouest France nous raconte ces petites histoires qui en disent long. Et aujourd'hui, Cyril, de petites histoires qui racontent une France dont on a peu parlé cette année. Cette France qui trouve des solutions et qui nous donne le moral.
Et oui, Jérôme, dans une actu morose, on fait souvent le choix le mardi de vous parler d'initiatives locales qui améliorent le quotidien, qui donnent de l'espoir. Eh bien, pour cette fin d'année, avec l'aide des six précieux médias de proximité, je vous invite à un tour de France de quelques petites histoires de 2024 qui donnent le sourire.
Bien volontiers.
Et on part à Saint-Philbert-de-Bouëne en Vendée. En mai, la petite Shannon, 4 ans, a eu un réflexe salvateur. Alors que sa maman, Laura, fait un malaise à la maison, la petite fille utilise la reconnaissance faciale pour alerter les secours, nous rappelle Ouest France ce matin. Elle compose alors le 18 et fournit toutes les informations nécessaires aux pompiers, sauvant ainsi sa maman. Il y a 15 jours, Shannon a été invitée pour l'arbre de Noël de l'Élysée. Elle en est revenue pleine de souvenirs et de cadeaux. Plus à l'est, Jérôme, on change de génération et on part à l'EHPAD. Pour briser le quotidien de ses résidents, celui de Fontoy, 3000 habitants en Moselle, a créé un nouveau lieu de rendez-vous, un bistrot, un vrai, avec décor vintage, diabolomante, café crème et même une tireuse à bière sans alcool. En février, l'inauguration s'est faite au son de l'accordéon. Ça donne un coup de fouet, on rajeunit, se réjouit un résident dans le Républicain Lorrain. Alors eux boivent sans doute la tasse de temps en temps. La première fois, je crois que j'ai bu tout l'océan, confirme Daniel dans Ouest France. Ils ont jusqu'à 83 ans et ont créé cette année sur la presqu'île de Crozon dans le Finistère leur club de bodyboard, un sport proche du surf. Quand on sera en fauteuil, ce sera trop tard, témoigne sur France 3 Marie-Françoise, la doyenne octogénaire, le nom de ce groupe de fans de glisse, les Pingouins Turbulent.
En parlant de pingouins, il y a des histoires d'animaux qui vous ont marqué, Cyril.
Évidemment, nous sommes à Roquebrune-sur-Argent, dans le Var, le 8 novembre. Après 7 longs mois de soins intensifs, Marina, une jeune tortue kawane, a pu regagner son milieu naturel en mer Méditerranée, nous apprend Var Matin. Blessée sans doute par une hélice de bateau et souffrant d'une fracture sur le haut de la carapace, elle avait été secourue 7 mois plus tôt par une famille de plaisanciers à Saint-Raphaël. 4 pattes toujours. Dans le centre-ville de Dijon, le 7 janvier, 3 chiots ont été retrouvés abandonnés dans un état critique avec leur cordon ombilical. Je pensais qu'aucun ne survivrait, raconte au bien public le directeur de la SPA. Faute de moyens pour s'occuper de chiots si jeunes, le refuge a pu compter sur une famille d'accueil qui les a nourris toutes les 2 heures pendant plusieurs semaines. Aujourd'hui, les croisés labradors ont été adoptés. Preuve que l'humain aussi sait faire le bien.
Vous nous parlez de bonheur, Cyril. Certains en ont fait un véritable métier.
Direction Montvalaisan, 700 habitants en Savoie. Ici, la mairie a créé un poste de chargé de bonheur. Et oui, Jérôme, c'est Noéline, 21 ans, qui a occupé ce travail pendant 8 mois. Elle a témoigné auprès de ICI. Le but, c'est vraiment d'apporter du bonheur aux gens, de leur assurer une présence, de leur tenir le bras pour aller se promener dehors, de faire leurs courses. Ça paraît simple, mais Et pour eux, c'est très très important. Son contrat terminé, Noéline va être remplacée par Hamza, 19 ans, pour le plus grand bonheur des seniors et des personnes isolées du village. Témoignage de Georgette, 83 ans. Elle est très 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 gentille. Comme quoi, c'est facile le bonheur et je vous en souhaite des tonnes pour 2025.
Et vous reviendrez tous les mardis pour nous raconter de telles histoires que c'est vrai, on ne met pas assez à l'honneur de manière générale. Merci Cyril Petit du journal Ouest France. De C'est la France à C'est une chanson, Frédéric Pommier nous propose une semaine spéciale années 80. Vous le savez, artiste incontournable de cette décennie, Michael Jackson, choisi aujourd'hui par l'ancien danseur étoile Carl Paquet avec un titre de 1982, Billie Jean.
C'était une idole planétaire et un génie pour moi absolu. Donc j'écoutais ça en boucle et en boucle. Et Michael a vraiment rythmé toute mon enfance.
Donc là, vous aviez 8-9 ans ?
Ouais, 9-10 ans. Ouais, c'était mes premiers CD, quoi. Et 5 ans plus tard, j'ai eu la chance d'aller le voir en concert, surtout. C'était à Cologne, on faisait un stage de danse. Et le comble du hasard, c'est qu'il venait lui faire le concert pendant ce stage. Au même endroit, là où nous, on travaillait. Donc ça a été un vrai choc émotionnel aussi, parce qu'on voyait toute l'infrastructure qui se mettait en place. On se disait, mais c'est quoi? C'est Michael ce soir, mais il va pas être là, c'est pas lui, mais si, mais... Il y avait toute cette légende à chaque fois avec ses doublures, et non, c'était vraiment lui, Michael Jackson. Très bien, quand il est mort, Michael, j'en ai pleuré parce que j'étais en tournée à ce moment-là en Australie et je me suis dit, mais il est trop jeune et j'avais encore une chance de le revoir et ce n'était pas possible. Quoi.
Vous l'avez vu une fois à Cologne,
une fois à Nice. Peut-être que je l'ai croisé dans la rue, je ne sais pas. Non, je pense pas. Je l'ai vu deux fois en concert, c'était déjà exceptionnel. Même je réalise aujourd'hui, je pense que de ma génération, peu ont eu cette chance.
À Cologne, là, vous étiez en groupe?
On était un petit groupe de danseurs qui avait réussi vraiment à s'infiltrer à travers la sécurité, je dois l'avouer, pour aller voir le concert. J'avais pas de place payante.
Donc deuxième choc. Et le choc de la musique d'abord, ensuite le choc visuel de le voir sur scène.
Choc visuel de le voir, danser, parce que t'es quand même aussi un danseur hors pair. C'était une nouvelle façon de danser, il avait aussi un style très particulier. Donc là, c'est sur Billie Jean particulièrement que je voyais... Il avait une façon de se déhancher, de se désarticuler complètement sur un rythme avec une rapidité assez hallucinante. Et tout d'un coup, ce moonwalk, où on a l'impression que c'est facile. Et je me suis dit, mais pourquoi et comment on fait ça, quoi? Et on était tous après comme des fous en train d'essayer de faire ce moonwalk qui, bien sûr, ne rendait pas aussi bien, mais dans notre tête, on y arrivait quand même.
Vous pensez qu'il a eu une influence sur votre manière de danser?
Non, mais il a eu une influence malgré tout sur ce qu'est transmettre aux autres. Donner du bonheur aux gens. Il n'y a pas une chanson que je n'aime pas. C'est un truc extraordinaire. Je peux me passer en boucle, en boucle, en boucle tous les albums de Michael et voir même les premiers albums. Parce qu'il a quand même 5-6 ans quand il commence à chanter. Ain't No Sunshine, chanté par Michael, j'en ai des frissons à chaque fois, réellement.
Et Billie Jean, ça vous met dans quel état ?
Billie Jean, on peut danser dessus surtout. Alors, je suis pas un spécialiste musical, mais je trouve que Billie Jean, encore aujourd'hui, quelqu'un sortirait cette chanson, on dirait waouh.
Et ça ressemble à quoi quand vous dansez sur cette chanson ?
J'essaie de danser comme Michael, mais j'y arrive pas. J'ai cette image, en tout cas moi, de Michael qui danse quand j'entends Billie Jean, et c'est éternel.
Évidemment, évidemment dans la playlist pour cette soirée de 31. Billie Jean, Michael Jackson, c'était donc le choix du danseur Carl Paquette, rencontré en 2023 par Frédéric Pommier. Carl Paquette, dont le spectacle « Mon premier lac des cygnes », adaptation pour les enfants du célèbre ballet, est à voir ce spectacle jusqu'au 9 février au Théâtre Mogador. C'est à Paris. Mathieu Vidard est à suivre sur Inter.